On est avec Jérôme Duprat, prof d'environnement à l'Université du Québec en Outaouais. Et on va se parler ce matin. Il y a de l'attention autour du pipeline de Kinder Morgan. C'est le Trans Mountains, je pense qu'on appelle ça, ce projet de pipeline controversé dans l'Ouest canadien. Et c'est depuis au Canada, ça fait les manchettes depuis quelques jours. Si vous n'avez pas suivi, eh bien, faites-vous-en pas parce que Jérôme va nous mettre à jour un genre de pipeline pour les nuls. Jérôme, tu es salué.
C'est vous aussi, cordialement.
Cordialement. C'est le même projet, là. Kinder Morgan, c'est ceux qui mettent en œuvre le Trans Mountain. C'est comme ça qu'il s'appelle, là?
Oui, quand Trudeau est arrivé au pouvoir, en fait, il a fait un peu table rase sur les projets qui étaient discutés au pays. Il en a interdit, puis il en a autorisé.
Donc, Il avait interdit Keystone, je pense, ou quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, Norton Gateway, il a interdit ça. Il s'était pas prononcé sur Enbridge au Québec, parce que la compagnie elle-même s'est retirée du projet, là, arguant une dimension d'acceptabilité sociale, mais au final, c'était plus une dimension économique qui avait motivé la décision. Là.
Et là, donc, c'est quoi la situation qui se passe avec le pipeline?
Donc, le gouvernement fédéral avait autorisé, et l'Alberta font la promotion de ça aussi, c'est l'élargissement d'un oléoduc existant. Donc, sur 1150 km, on veut passer d'un flux de 300 000 barils par jour à près de 900 000. Donc,
tripler la patente, là.
Oui, puis ça passe sur le territoire de la Colombie-Britannique. Et il y a un nouveau gouvernement en Colombie-Britannique qui est minoritaire et qui survit grâce à l'appui de 3 députés verts. Et eux, bon, c'était une promesse électorale, et les Verts en ont fait une condition de survie du gouvernement, de s'opposer à l'élargissement.
Ils ont énormément de pouvoir à ce moment-là. Là.
Donc, en fait, là, c'est qu'il y a vraiment des flous juridiques. Techniquement, le Canada le gouvernement canadien a préséance sur des projets qui sont sur plusieurs frontières, donc sur plusieurs provinces, mais n'a pas les outils réellement pour mettre ça en œuvre. Donc là, c'est vraiment une bataille. Et au pays, il y a même un sondage qui est sorti hier. Là, on fluctue de semaine en semaine entre 49 % d'appui. Hier, c'était 55 % d'appui des Canadiens. Puis ça représente vraiment la situation. Il y a des gens qui sont pour l'investissement de 7,5 milliards pour l'élargissement pour des retombées de 18 milliards et 35 000 emplois. Puis il y en a d'autres qui disent, bien là, on va faire une augmentation de 700 % du volume de pétrolier dans le port de Burnaby, qui est à 13 km de Vancouver. Donc, les risques de catastrophes environnementales, tout le discours autour de la crise climatique, l'utilisation d'énergie fossile. Donc, c'est un choc de titan, ces deux visions-là.
J'ai le goût de te demander, le citoyen que tu es, l'environnementaliste que tu es, tu te ranges où, justement? Est-ce que c'est un bon projet pour l'économie du Canada ou tu te ranges dans il y a trop d'impacts environnementaux?
Bien, c'est sûr, quand on regarde les retombées, c'est des chiffres qui sont impressionnants, mais dans toute la dimension sable bitumineux, ce qu'on regarde pas souvent, c'est les coûts réels du projet. Donc, il y a des coûts indirects sur la santé publique quand on s'en va faire des projets pétroliers comme ça. C'est une participation à donc plus de gaz à effet de serre. Il y a des impacts sur les changements climatiques. Il y a des coûts de potentiel déversement. Donc, il y a des perspectives à mettre sur ces chiffres-là qu'on nous annonce. De l'autre côté, bien, il y a aussi il y a plusieurs provinces qui ont fait leur développement sur cette ressource naturelle-là. Le gouvernement canadien a investi déjà 1 milliard dans le projet. Donc, je comprends la logique aussi de dire qu'on...
Puis la réalité, Jérôme, c'est qu'on est encore dépendant des énergies fossiles. On veut aller vers les bonnes affaires. On n'est pas contre la vertu, en même temps, d'être le plus vert possible, mais pour quelques années encore, sinon quelques dizaines d'années, on est encore un peu dépendant de ça. Donc,
c'est ce qu'ils nous disent, parce que dans les faits, on met tellement d'argent dans cette supposée transition qu'on pourrait mettre ça dans une transition beaucoup plus rapide. On pourrait devenir énergétiquement efficace avec des énergies renouvelables.
Et on est-tu en train de s'ostiner, toi puis moi, là? Ah oui, pour vrai, donc on pourrait faire plus vite et mieux que ce qu'on est en train de faire présentement.
Il y a des milliards de dollars qui sont mis dans le soutien à ces types d'énergie-là, puis ce type de développement économique, parce qu'on est pris avec des artefacts du passé, puis toute une structure économique. Donc, je comprends le point de vue, mais de l'autre côté, c'est pas vrai qu'on est obligé de faire ça. On est une société développée qui a des ressources, les outils sont disponibles, on a le territoire pour développer du solaire, de l'éolien, et cette transition-là, c'est pas en 2 ans, mais on parle pas de 30 ans.
C'est ça.
Puis l'idée, c'est que quand Justin Trudeau s'en va dans les conventions internationales puis dit le Canada, c'est un leader en environnement, bien, il revient ici puis il parle des deux côtés de la bouche. Il dit, il veut faire plein de bonnes choses pour le climat puis qu'on prenne la pole position. Et de l'autre côté, finalement, quand il arrive un réel enjeu puis une décision à prendre, bien, ça penche de l'autre côté.
Mais oui.
Dans ma tête, moi, ça se passe à l'autre bout du Canada. Ça me concerne quoi au Québec? C'est quoi les répercussions qu'on pourrait avoir?
Cette situation-là, c'est un copycat de Énergie Est.
OK.
Puis l'idée pourquoi ça chauffe autant, c'est que là, en Colombie-Britannique, on s'est dit non, on ne veut pas l'autoriser. Et Kinder Morgan, la compagnie basée à Houston, dit nous, on stoppe immédiatement tout investissement nouveau d'argent. Puis si au 31 mai, la situation n'est pas régularisée, on va abandonner le projet. Donc, ils mettent la pression sur le gouvernement en disant, OK, les 35 000 emplois là, qu'on vous fait miroiter jusqu'en 2030, là, si au 31 mai, ce n'est pas réglé avec la Colombie-Britannique, les Premières Nations, les opposants, nous, on retire nos billes. Donc, évidemment, ça, c'est...
Et là, est-ce que j'ai pas remarqué dans les médias s'il y a des gens de l'Alberta qui traitent les gens de la Colombie-Britannique de salauds, comme on a été traité de salauds quand on a interdit Énergie Est? Je serais curieux. J'ai un peu la réponse. Là, ça commence par N, ça finit par ON. Mais je fais juste un peu d'ironie ce matin. Jérôme, on comprend tout à fait les ressorts politiques de ça. J'aimerais qu'on parle dans un instant, tout de suite après la circulation, de quelque chose qui nous rejoint beaucoup. Une découverte qui a été faite, puis c'est un double sujet. En fait, on a appris que nos objets de recyclage, en fait, le plastique du recyclage ne serait plus reçu par la Chine. Et donc, il va falloir en disposer nous autres-mêmes. Puis peut-être qu'une de ces façons-là d'en disposer est déjà découverte. On verra ça avec toi dans un instant, si tu le permets. Rapidement, parce que je veux juste que tu complètes un peu la question de Billy, parce que là, il boude dans le coin.
À son habitude.
Parce que ce qui se passe présentement, tu l'as dit succinctement, mais juste, c'est vraiment une copie conforme de ce qu'on a vécu avec Énergie-S, ce qui est en train de se passer avec Trans Mountain présentement, le problème avec l'échéance. Mais il y a une nuance quand même. Enbridge, se sont retirés, mais ce ne seraient pas les mêmes raisons que Kinder Morgan, là.
Ouais, ben en fait, c'est un peu le même discours. On joue avec les chiffres, puis on décide si on y va ou on y va pas. Kinder Morgan le dit aujourd'hui en disant, ben, s'il y a de l'incertitude, ça, économiquement, ce sera plus rentable. Enbridge le dit l'an dernier. Puis l'idée, Enbridge aurait pu dire, nous, on va de l'avant, puis on aurait vécu au Québec le même rouleau compresseur que le lobbying de l'Ouest et le gouvernement fédéral veulent faire avec la Colombie-Britannique. C'est-à-dire ne pas écouter les citoyens, les gouvernements en place, les Premières Nations, parce que là, c'est...
D'y aller de manière unilatérale, puis dire, on fait ce qu'on a...
Le ministre des Ressources naturelles, Jim Carr, a pas évacué l'option de faire intervenir l'armée.
Ah,
donc, il a dit
que
toutes les options sont ouvertes. Okay. On lui a posé la question, mais il a dit que toutes les options sont ouvertes. Fait que c'est quand même, ça brase.
Ils sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est ce qu'on comprend.
C'est comme une crise d'Oka. Mm-hmm.
Vraiment, vraiment. Il y a un autre sujet, je l'ai dit, qui nous rejoint cette semaine. On a découvert une enzyme. On a annoncé la découverte d'une enzyme mangeuse de plastique.
C'est quoi ça?
T'es au courant, puis c'est quoi ça, Jérôme?
Ça va vous faire plaisir. Là, c'est le premier qui fait la blague. L'enzyme, c'est le polyéryphtalate d'éthylène, communément appelé le PET.
C'est toi qui as fait la blague.
Donc, cette enzyme, c'est une pétase, parce que le polyéryphtalate d'éthylène, c'est un composé qui entre dans la fabrication des bouteilles de plastique.
Okay.
Et on a découvert une bactérie, Ideolea sakaiensis, au Japon. Cette bactérie-là aurait évolué naturellement dans les dépotoirs.
Mais Eureka, c'est extraordinaire. On a la solution à tous nos problèmes.
En fait, là, on est rendu à cette idée de transférer l'enzyme d'un laboratoire à un processus industriel. Okay. Donc, c'est pas
simple.
Il y a une
petite marge.
Mais c'est quand même... Là, c'est,
Mais qu'est-ce que ça fait? Ça digère le plastique, puis ça brise
les chaînes carbonées, puis ça les réduit en des composés qui sont solubles dans l'eau, qui sont plus...
Puis combien de temps, mettons, comparativement à du plastique qui pourrit dans l'environnement, s'il peut pourrir, là? C'est des centaines d'années, je pense, mais ça serait combien de temps? Les résidus de ça serait...
Ben, en fait, c'est que là, on a... isoler l'enzyme de la bactérie, mais non seulement on l'a isolé, on a augmenté sa capacité de transformation. Ensuite, dans le plastique, dans les bouteilles, il y a d'autres dérivés. C'est pas uniquement le PET. Donc, il y a plein d'autres composés qui font ça.
Il y a le rot, probablement, et autres éructations.
Bon, attendez, une blague salace comme ça.
Non, mais on va le retenir.
C'est vrai.
Mais en fait, ça met ça dans un contexte...
Donc, c'est une piste de solution, là.
C'est une piste de solution, puis on en est là parce que... la Chine a fermé ses portes au début de l'année à l'importation des déchets de la planète. Okay? Parce qu'ici, au Québec, là, on recycle, on fait du tri de façon très peu efficace. On est capable de récupérer seulement 14 % du plastique, du verre, 18 % du plastique.
Je pensais qu'on était meilleur que ça.
On est vraiment à poche. Là,
ah, ouais.
Le papier carton,
c'est
bon.
On est poche,
bon,
pourquoi?
Là?
Parce qu'on n'a pas trouvé les bons moyens ou juste parce qu'on n'investit pas assez dans la chose?
Ben, en fait, il y a un manque de sensibilisation. Ils ont lancé un sondage récemment.
Okay, c'est nous, comme citoyens, qui ne recyclons pas assez?
Ben, en fait, collectivement, au Québec, là, on recycle 14 % du verre qu'on pourrait recycler, 18 % du plastique.
OK, le problème, c'est nous autres.
Ben, donc, il y a ce bout-là de la chaîne. Puis ensuite, quand on le recycle, en fait, on est très bon pour faire le tri. Donc, on prend le bac, on le trie, mais ensuite, sur la chaîne de récupération puis de recyclage,
okay, mais
il y a 60 % de ça qui s'en va à l'extérieur. On vend ça en Chine, en Inde.
OK.
Je veux juste préciser, là, c'est pas nous dans notre bac, on est bon là-dedans. On a pris la bonne habitude de, nous, à la maison, faire du recyclage, mais la manière dont on dispose de ce recyclage-là, ces matériaux-là, c'est là qu'on est poche. C'est ça que je comprends?
C'est aux deux niveaux.
On est pourri à la maison aussi?
Oui, mais il y a une dimension industrielle.
Mais regarde, on règle ça comment? Y a-tu des... Ça aussi, est-ce qu'il y a des pistes de solutions de récupérer les choses, de mieux utiliser ces matériaux-là, essentiellement?
Mm-hmm. Ben, en fait, Recyc-Québec le dit, la pression ne doit pas être sur l'individu, le citoyen, parce que, tu sais, une compagnie qui fait un pot de perles pinot, on ne lui demande pas de recycler son pot. Donc, ça revient, cette charge-là, aux municipalités puis aux citoyens. Donc, il y a une dimension de sensibilisation, d'éducation. Puis là, je fais la promotion d'un petit outil, d'une application que Recyc-Québec a lancée. Ça s'appelle Ça va où?
Okay.
Donc, il recense 800 produits en disant, ben là, ça, il faut que ce soit dans le bac, dans tel élément. Voici ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'on a besoin d'être meilleur à la maison. Mais par la suite, collectivement, on doit être capable de prendre ce plastique, ce papier, et localement le transformer pour en faire des produits de meilleure qualité. Parce que là, aujourd'hui, ça, on ne peut plus l'envoyer en Chine. Il n'y a plus d'assez bonne qualité.
Ça.
Donc, qu'est-ce que ça fait? Dans le dernier recours, on l'enfouit ou on le brûle. Ça, c'est un coût de 150 millions supplémentaires. Ou on développe des filières pour être capable de le transformer. Donc, dans ce sens-là, je veux quand même dire qu'il y a du positif parce que le gouvernement a investi. Là.
Excuse-moi, Jérôme, mais Simon, il écrit « Les routes en plastique ». Il y a quelqu'un...
C'est apparu dans la presse hier, entre autres, c'est un projet ailleurs, et puis on confrontait un expert pour lui demander est-ce que ça devrait être étudié, c'est ce qu'il proposait.
Ça, je ne connais pas, mais l'idée de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est de dire que localement, on est capable de réutiliser ça. Donc, il y a des projets pilotes de plein de façons, bon, que ce soit peut-être les routes, mais l'idée, c'est de prendre ce qui vient de votre bac et d'en faire un composé qui est assez pur pour réintégrer des chaînes de fabrication.
Mais cycle de vie. Là.
Exactement.
Ton déchet devient ressource.
On génère quelque chose qui n'est pas assez bon, donc on l'envoie en Asie, on l'envoie en Chine pour qu'il soit des fois recyclé, des fois brûlé.
Okay. Et je vais laisser le dernier mot à Jennifer Jérôme. Il serait bien de mentionner que la première solution, c'est de faire attention à la surconsommation. C'est tellement vrai.
Tellement.
La production de déchets comme telle.
Il faut dire qu'on te voit sur scène avec les Cowboys fringants, bien sûr, Jérôme. On te voit aussi au cinéma, si ça vous intéresse, d'aller voir La Terre vue du cœur. C'est sorti la semaine dernière. Ça vaut la peine. De nombreux experts sont réunis dans ce film-là, dont toi, Hubert Reeves et plusieurs. Et il est vu, il peut être vu au cinéma Beaubien, cinéma Quartier Latin, entre autres. On y parle de la Terre, de la beauté de la Terre, des défis qui nous attendent, mais c'est pas moralisateur. C'est un film vraiment...
Très positif.
Très positif.
Des solutions.
Qui donne envie d'être un humain encore.
Et Jérôme Dubras gagne à être vu, mesdames et messieurs. Il est beau comme tout.
Peut-être faire le classement que vous annonciez. Là,
le classement de...
Les plus belles vedettes internationales.
Ah, ben oui.
Avec Pink.
Ah, oui. Ah, mais moi, je te trouve vraiment
rose,
beau.
Mais grâce à toi, je sais que quand je parlais de perte dans une bouteille, j'étais un génie tout ce temps-là. Bon, c'était pas la même solution pour détruire le plastique, mais...
Merci, Jérôme.
Hey, merci, bonne journée.
En semaine, dès 5h25.
96.9.